Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous en ce lundi 21 septembre 2015? Tellement beau 21 septembre 2015, en tout cas, dans la région de Montréal. J'espère que vous avez un ciel aussi pur et limpide de votre côté que chez nous. Une belle température, quoique assez fraîche, hein, dans la plupart des régions du Québec. On a même frôlé le 1 degré, 2 degrés. Oui, dans certains coins de pays. Ici, à Montréal, c'était 12 ce matin, mais là, ça monte comme la bébête, et donc on devrait connaître une très belle journée. Alors, la météo, c'est bien joli, mais que se passe-t-il dans l'actualité? Que nous racontent les journaux, les revues? Que peut-on lire sur le web? Eh bien, vous saurez tout cela ce matin grâce aux voix de service. Et des voix de service, j'en aurai encore pas mal. Je pense à Serge, Roger, Franceline qui vont venir se joindre à moi, mais aussi, comment s'appelle-t-elle? Gisèle Lalande aussi en politique internationale. Il va y avoir Marianne qui va venir, Christiane Campagna, Kevin Breton, enfin bon, plein de gens qui déjà travaillent fort pour fouiller dans les journaux et trouver la nouvelle que vous devez absolument savoir. Alors, en cette première demi-heure, je vais passer en revue la presse et le journal de Montréal. Il y aura aussi la nouvelle virale de Christiane Campagna. Mais d'abord, en ce 21 septembre 2015, journée d'automne pour les uns, les autres disent non, l'automne c'est pour mercredi. Nous, on s'en fiche un peu. Bonjour Rémi.
Bonjour Clotilde.
Alors aujourd'hui, 21 septembre, que nous évoque cette date?
La Saint-Mathieu.
Ah bah.
Donc aujourd'hui, nous fêtons les Mathieu.
Les Mathieu. Alors, bonne fête Mathieu.
Voilà. Qui nous écoute peut-être. Il y a un dicton aujourd'hui qui ne va pas te plaire, qui ne m'a pas plu. Quand vient la Saint-Mathieu, l'été, adieu.
Aïe, aïe.
Mauvaise nouvelle, c'est une belle journée. Fait que
oui, mais ça, c'est exactement.
Exactement. Ce dicton. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer.
Ah oui, dont il sera question d'ailleurs à cette émission-là.
Magnifique. La journée internationale de la bibliodiversité.
Oui, oui.
J'avais mal lu au début.
Oui.
Et la Journée internationale de la paix.
OK.
Également, on célèbre l'abolition de la royauté en France. Donc, la France devient une république, ainsi que le propose Billaud Varenne en 1792.
Après que quelques têtes soient tombées. On va le dire comme ça.
En 91, le 21 septembre 91, l'Arménie déclare son indépendance.
Mm-hmm.
En 2014, donc il y a vraiment pas longtemps, la sonde américaine Maven, M-A-V-E-N,
oui,
je sais pas trop comment le prononcer, est mise en orbite autour de la planète Mars.
Ok.
En 2001, tu dois probablement t'en rappeler, l'usine AZF de Toulouse a explosé.
Oh mon Dieu, oui.
Énormément de blessés, 2500 blessés et 31 morts.
Oui, ah oui, oui, non, on se souvient de ça, ça avait été une vraie catastrophe. Merci beaucoup,
merci
Rémi.
À toi.
Merci. Alors, c'est avec la presse que je commence ce matin, et ce qui fait la une, ce sont les prix Gémeaux, les 30e du nom. Photo de gros plan de Martin Matt et un bon gros titre bien trouvé ce matin, Les Beaux Moments, puisque la comédie de Martin Matt, Les Beaux Malaises, a remporté hier soir 3 trophées à la grande fête de la télévision québécoise. Mettons que c'est cette émission, cette comédie qui ressort grande gagnante de cette soirée. On annonce aussi un candidat bloquiste, Jacques Tremblay, qui se retire de la campagne dans la controverse. En fait, il aurait dit à un moment donné ou à un autre que finalement, ça nous prendrait un bon Front National avec une bonne Marine Le Pen ici. Alors bon, il a été, mettons, un petit peu forcé de démissionner. Photo terrible de migrants que l'on voit s'accrocher à des trains. Évidemment, ils mettent leur vie en danger. On en voit certains qui rentrent par des fenêtres dans des wagons. Alors, on ne voit plus leur torse, mais on voit leurs jambes qui pendent dans le vide alors que le train est déjà en marche. Et puis aussi, on annonce une chronique de Patrick Lagacé, que je vais vous lire du moins un extrait. Et juste avant quand même, ce petit clin d'œil de Stéphane Laporte, ce matin, Stephen Harper serait prêt à accélérer l'entrée des réfugiés qui votent conservateur. Thank you. Alors cette chronique de Patrick Lagacé, bien touchante, je dois dire. Lagacé qui est allé voir Paul à Québec et qui avoue avoir reniflé dans le noir. Il dit d'ailleurs, on est bien dans le noir au cinéma pour pouvoir brailler un bon coup. Et c'est ce qu'il a fait. Il trouve que la beauté du film de François Bouvier, c'est que c'est un film qui ressemble. C'est un film sur la mort, mais c'est un leurre parce que c'est un film sur la vie. Il dit que les scènes de la lente agonie de Roland vont vous arracher le cœur parce qu'elles vont vous rappeler quand votre mère, votre frère ou votre femme, qu'importe, a pris la dernière ligne droite de la vie. Le malade qui boit à la paille, la bouche semi-ouverte vers la fin, la peau de cire, oui. On est, je ne sais pas pour vous, mais effectivement, ce sont des images terribles qui évoquent, en tout cas, dans ma mémoire, des souvenirs et pas si lointains que cela. Et du coup, ça l'amène à une question, en fait, une question, dit-il, qu'on ne se posait pas auparavant. À moins de se flinguer derrière le cabanon, la seule option était à peu près d'aller au bout du supplice. Il en revient évidemment au choix de la mort dont on parle encore beaucoup. À partir de décembre, dit Patrick Lagacé, il va y avoir cette solution alternative au Québec, soit celle de choisir le moment de sa mort, mourir dans la dignité. Suicide médicalement assisté. Appelez ça comme vous voulez, dit Lagacé, à l'intérieur d'un sillon éthique et médical bien balisé, un médecin pourra vous donner un cocktail mortel. Si vous le choisissez. Au Canada, ça s'en vient. La Cour suprême a ordonné en février que le code criminel soit amendé pour permettre à un médecin d'aider un patient en phase terminale à en finir. Les opposants à ce soin, je vais toujours utiliser le mot « soin », dit-il, sont peu nombreux. Ils sont en marge du consensus québécois et canadien, mais ils parlent très fort. Et pour eux, ce progrès est une hérésie, la proverbiale pente glissante, incapable de gagner sur le fond. Il se lance dans une guérilla administrative, on n'en fera pas dans les maisons de soins palliatifs, on n'en fera pas dans les ailes de soins palliatifs, dans les hôpitaux. Ses opposants utilisent parfois de gros mots. Meurtre a été entendu. Euthanasie, avec les relents totalitaires que cela suppose. J'aurais aussi de gros mots à leur lancer à la gueule, dit Lagacé. Mais à quoi bon? Ils ont perdu. Et de toute façon, dans 5-10 ans, ce sera partout. Dans Paul à Québec, Roland Beaulieu va au bout du supplice. Il aurait pu sauter devant un train. Il a pourtant choisi de vivre chaque journée que la vie, dans son grand jeu de poker avec la mort, gagnait en son nom, malgré la souffrance. En serais-je capable? À froid, en santé, dans la matinée frisquette de l'automne qui s'annonce, je me dis que non, pas question, je choisirai le moment. Piquez-moi, doc. Mais peut-être pas. Aussi, conclut M. Lagacé, qui finit par cette phrase qu'il a tirée d'une chanson d'Alex Nevsky qui dit « Il faut se garder de ce qu'on croit connaître de soi ». Alors, Rémi Remonzo nous le disait un petit peu plus tôt à cette émission, hein, ce 21 septembre, c'est la journée sur l'Alzheimer. Et Mathieu Perrault signe un papier dans la presse ce matin en se demandant « Mais est-ce qu'on n'irait pas vers un diagnostic un peu plus rapide ?» La progression des stades précurseurs de l'Alzheimer va en s'accélérant. Selon une nouvelle étude montréalaise, ces résultats pourraient permettre de détecter plus rapidement la maladie. Pouvoir identifier le plus tôt possible les patients à risque d'avoir la maladie d'Alzheimer sera particulièrement important quand on aura un médicament pour retarder l'apparition de la maladie, explique Sylvie Belleville, qui est directrice du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et qui fait partie des auteurs de l'étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease à l'occasion de la Journée internationale de l'Alzheimer aujourd'hui. Les chercheurs ont suivi pendant 4 ans 121 patients, dont 74 ont fini par avoir un diagnostic d'Alzheimer. Les patients avaient obtenu au départ un diagnostic de trouble cognitif léger, TCL, qui reçoit beaucoup d'attention de la part des chercheurs spécialistes de l'Alzheimer. L'équipe de Mme Belleville, qui donnera une conférence cet après-midi à l'Institut de gériatrie sur les avancées récentes dans le domaine, s'intéresse depuis de nombreuses années au TCL. L'un des résultats les plus frappants a été la progression quadratique très rapide du déclin cognitif un an ou deux avant le diagnostic d'Alzheimer. Le cerveau compense lors des premiers stades du déclin, mais une fois qu'il ne peut plus compenser, ça s'accélère, explique Mme Belleville. Ce déclin rapide qui touche surtout à l'orientation, la mémoire de travail et la mémoire à moyen terme, et moins la mémoire à court terme et la capacité de prise de décision. Le langage chez les patients qui recevront éventuellement un diagnostic d'Alzheimer est toujours plus touché que ceux qui restent avec un simple TCL. Alors devrait-on administrer les médicaments anti-Alzheimer actuels aux patients atteints de TCL ? Non, répond la psychologue montréalaise, d'abord à cause de leurs effets secondaires et surtout parce qu'aucune étude n'a démontré que ce médicament ait un effet avant le diagnostic. Aux États-Unis et en France, certains médecins le font, mais pas ici. En France, on parle parfois de pré-Alzheimer pour le TCL et je pense que c'est une erreur. Les médecins de famille québécois n'utilisent pas beaucoup les tests de TCL, selon Mme Belleville, et pourtant, un suivi plus serré permet de détecter plus tôt l'Alzheimer, ce qui est bénéfique pour les proches, souvent aux premières lignes de l'aide aux patients. Quelques chiffres quand on parle de cette terrible maladie. 24 millions, c'est le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans le monde. 10 à 20%, c'est la proportion de personnes âgées souffrant de TCL. Et 10 à 15%, c'est la proportion de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. La caricature ce matin dans la presse, c'est d'ailleurs celle qu'on retrouve dans la plupart des journaux régionaux. Nous sommes dans les bureaux de Facebook et il y a un jeune homme, c'est une jeune femme qu'on peut imaginer travaillant pour Facebook avec les cheveux tout rouges, avec plein de piercings dans les oreilles, qui dit à celui qu'on imagine être un directeur de chez Facebook, elle lui dit « Alors voilà, alors en plus du j'aime, nous ajouterons le bouton « je n'aime pas », le bouton « jaillisseur », le bouton « ça m'écœure », le bouton « c'est dégueu » et le bouton « burk ». Je suis convaincue que ça va faire bien sourire ma camarade Christiane Campagna qui vient d'arriver pour nous présenter sa nouvelle virale d'ici quelques minutes. Mais avant, je voudrais vous lire un extrait de cette opinion de monsieur. C'est une chronique d'Alain Dubuc dans les pages débat de la presse ce matin et ça s'appelle « Le grand mensonge ». Il dit « On peut déjà prévoir que quelques mois après le scrutin d'octobre prochain, les gens se mettront à dire « On n'a pas voté pour ça. Peu importe qui l'emportera dans cette lutte à trois, dit Alain Dubuc, dont on ne peut pas prévoir l'issue, les décisions que devra prendre le prochain gouvernement ne ressembleront pas à ce que leur chef disait en campagne électorale. Pourquoi ? Eh bien parce que les chiffres avec lesquels devra travailler le prochain gouvernement ne sont pas les mêmes que ceux avec lesquels les partis politiques ont fait leur campagne électorale, parce que les cadres financiers des trois partis sont inexacts et incomplets. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on peut écrire déjà le scénario à l'avance. Si les libéraux ou les néo-démocrates l'emportent, on aura inévitablement droit aux manifestations de stupeur du nouveau gouvernement quand il ouvrira les livres et découvrira l'état lamentable des finances publiques, refrain connu. Ce qui compromettra bien entendu sa capacité de respecter ses engagements si les conservateurs gardent le pouvoir. On aura sans doute droit à une mise à jour financière dont ils ne disent mot maintenant, mais qui tiendra compte de la nouvelle réalité économique et qui contiendra des mesures pour maintenir l'équilibre budgétaire qu'ils se sont bien gardés d'évoquer. Il y a pourtant une façon d'éviter ce scénario qui se répète élection après élection, et elle a déjà été évoquée au niveau québécois, nous rappelle M. Dubuc. Les budgets des gouvernements, surtout à la veille d'une campagne électorale, sont trop politiques pour vraiment donner leur juste. Il faudrait donc, pense-t-il, pouvoir compter sur des données budgétaires vérifiées, neutres et non partisanes, qui décriraient avec plus de justesse l'état réel des finances publiques et qui serviraient de base de référence à tous les partis. De telles données pourraient être produites au fédéral par le directeur parlementaire du budget. Si on avait eu droit cette année à de vraies données budgétaires, la démocratie aurait fait des progrès parce qu'on aurait éliminé un des facteurs qui mine la confiance des citoyens et qui nourrit leur cynisme. C'était signé Alain Dubuc dans la presse de ce matin. Je vais me tourner vers Christiane Campagna dans quelques secondes. Bonjour Christiane.
Bonjour Mathilde.
Belle fin de semaine.
Oui, courte.
Courte, oui.
Moi, j'en aurais pris une de plus.
Ah,
il y a
oui,
des semaines
hein?
comme ça. Il y a des semaines où deux, c'est assez. Ça
oui.
va? Il y a des semaines où ça en aurait pris une de plus.
Ben, c'est parce qu'en plus, on voit arriver l'automne, hein, mine de rien. Et ce sont encore des belles journées. Et qu'on
oui,
a envie d'en profiter.
Oui, c'est ça, c'est les dilemmes. On faut en profiter, il faut préparer la semaine, il faut faire le ménage, on n'y arrive pas.
Alors, sur la toile ce matin, qu'est-ce que vous avez trouvé pour nous?
Écoute, ce matin, je voulais vous parler de twivage. Parce que le lundi matin, plus que toute autre semaine, ces chroniques vont souvent porter sur les grands rendez-vous télévisuels du dimanche soir. Mm-hmm. Et il y a un phénomène depuis quelques années qu'on appelle le twivage, un néologisme désignant l'action de gazouiller tout en regardant la télé, et qui vient du verbe, une contraction des verbes clavardage, tweeter et TV. Et bon, le premier grand cas au Québec, c'était Tout le monde en parle. L'idée, c'est qu'on fait un commentaire, mais on utilise le mot clic, TLMEP. Et des gens peuvent, des responsables de l'émission, les gens qui écoutent l'émission, les animateurs peuvent suivre aussi. Quand l'émission n'est pas en direct, souvent, les animateurs y participent, même qu'ils sont de plus en plus encouragés à le faire. Véronique Cloutier a été encouragée à utiliser Twitter pour les enfants de la télé. On l'utilise aussi beaucoup pendant C'est juste de la TV. Celui-là est un cas particulier. Les gens continuent de l'utiliser pendant la semaine quand ils commentent la télévision.
OK.
Parce que vu que c'est une émission qui commence, une émission sur la télévision, les gens continuent de l'écouter pendant la semaine. L'avantage de ça, bon, les cas où ça a augmenté les codes d'écoute sont, semble-t-il, assez rares. On parle d'un souper presque parfait qui a vraiment été propulsé par ce
twivage. Autrement dit, nous, ça ne nous arrivera pas.
Ça me surprendrait. En radio, il y a très peu ce phénomène-là encore, sauf peut-être la sphère pour laquelle il y a vraiment interaction pendant l'émission. Mais par contre, ça incite les gens, moi je sais que c'est le cas pour moi, à écouter les émissions en direct. Ça recrée les bons vieux rendez-vous d'antan où tout le monde écoutait la même émission en même temps et voyait les mêmes publicités en même temps. Parce que qui dit écouter en direct, dit se taper les pubs, contrairement au rattrapage web ou à l'enregistreur numérique. Alors c'est peut-être là qu'est l'intérêt pour les diffuseurs de stimuler ça. Ce qui a fait dire à un gestionnaire de communauté sur son blog en fin de soirée hier que c'est dommage que ce ne soit pas reconnu les stratégies numériques par les Gémeaux.
Ah ben oui, c'est vrai, effectivement.
Puisque c'est rendu très important. Alors hier, j'ai même pas écouté le gala, mais j'ai quand même su ce qui s'y est passé.
D'accord.
Grâce à Twitter, j'ai su que les remerciements étaient très courts. On disait même qu'on avait, Nicolas Boisvert disait même qu'on avait intérêt à pas vouloir remercier des gens avec des noms composés. Et on a beaucoup commenté le fait que Martin Matt s'est prononcé sur la question des conditions de travail pour les travailleurs de l'industrie. On a dit qu'il ne sera pas le prochain prof dans 30 vies.
Non, ça c'est sûr. Il est barré par Mme Larouche, ça c'est certain, mes amis.
Et Paquette Le Chameau a écrit que Fabienne, elle a lu des noms des nominés tellement vite qu'il y en a deux qui sont morts d'épuisement. Mais en fait, je l'ai entendu ce matin à la radio, mais il utilise le mot « coupure ». Donc, la critique de Martin Matt, elle allait en amont de ça. Elle disait que ces conditions-là sont amenées par les conditions économiques dans lesquelles on produit de la télé. Un peu, quand même. Mais je suis sûre que Fabienne
en
l'a
cas,
pas pris comme
moi,
ça.
Moi, je l'ai entendu, puis je l'ai écouté, ce passage-là, puis j'aurais été Fabienne Larouche, mais pas sûre, moi.
Ouais.
Pas juste ça, en tout cas.
On a aussi beaucoup critiqué que la seule ovation debout a été pour le nouveau capitaine du Canadien, alors qu'on était dans un événement sur la culture.
Oui.
Mais bon, je vous dis ce qui s'écrit, tirez pas sur le message.
Non. absolument pas, mon ami, absolument pas, je n'oserais pas.
Et le week-end a été résumé par
C'est ce que je vous demande de venir, je ne vais pas tirer sur vous, pour chouette.
Le week-end a été un peu résumé par ce tweet de Stéphane Leclerc qui a dit qu'il n'a pas participé au marathon de Montréal ni remporté un trophée au gala Gémeaux, levez la main.
Merci beaucoup. Est-ce que c'était tout, Christine?
Oui.
Merci. Alors, à la une du Journal de Montréal, ce matin, 30e gala des Gémeaux, justement, le tour du chapeau pour les beaux malaises et Martin Matt et Julie Le Breton, tout sourire avec leur trophée dans la main. Marathon de Montréal, malheureusement endeuillé cette année par une coureuse de 34 ans qui a perdu la vie. Le gros titre ce matin dans le journal, c'est à peine 31% des étudiants obtiennent un diplôme dans les délais. C'est pire que jamais dans nos cégeps apparemment. Alors, quelques petites nouvelles d'hiver. D'abord, une bonne et puis une mauvaise. La bonne, c'est qu'il y a des récoltes exceptionnelles à 30 minutes de Montréal. Je parle de vendanges. Près de 200 bénévoles participeront aux vendanges du vignoble Le Mas des Patriotes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les propriétaires prévoient récolter près de 2 tonnes de raisins de plus que l'an dernier grâce à la météo extraordinaire de la fin de l'été. Si c'est vrai pour Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vrai pour à peu près tous les vignobles du Québec et c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est ce décès, hein, cette jeune femme de 34 ans qui se trouvait à ce moment-là sur la piste Gilles Villeneuve. Donc, ça ne faisait pas très longtemps qu'elle était partie. Elle s'est subitement effondrée au sol. Elle devait compléter seulement un semi-marathon. Son décès a été constaté à l'hôpital peu de temps après. On a évidemment tout fait sur place pour essayer de la réanimer. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. En 2011, un homme de 32 ans est mort après avoir subi un arrêt cardiaque en fin de parcours. C'était également en fin de parcours du demi-marathon. Et puis, on se souvient très bien, en juin dernier, de ce jeune pompier de 21 ans qui est mort d'un arrêt cardiaque lors du demi-marathon des pompiers de Shawinigan. Il s'est effondré à près d'un kilomètre du fil d'arrivée. Alors bon, la question est ouverte évidemment. Pourquoi tout d'un coup, à 34 ans, la vie de cette femme s'arrête? Est-ce qu'il y aurait eu surentraînement? Est-ce qu'il y aurait eu... Bref, évidemment, tout le monde s'interroge et tout le monde se dit « Oups, mais est-ce que ça devient dangereux de faire ça ?» Quand on voit les 30 et quelques mille personnes, 35 000 personnes qui ont participé, bon, je ne sais pas. En page 13 du Journal de Montréal, on nous le dit, on nous l'écrit, les températures de ce début d'automne devraient être idéales et le gros titre c'est « L'automne sera beau et chaud, mes amis ». L'automne qui débutera officiellement à 4h21 dans la nuit de demain à mercredi devrait même offrir des températures au-delà des normales habituelles si on se fie aux prévisions des experts d'Environnement Canada. Nos prévisions automnales qui vont jusqu'à novembre indiquent qu'il y a de fortes probabilités de températures en haut des normales de saison, parfois jusqu'à 2 degrés, explique le météorologue Bruno Marquis. Il est difficile d'identifier les causes précises de cet automne qui s'annonce agréable, mais le courant marin El Niño pourrait en faire partie, selon le météorologue. Dans le Journal de Montréal, toujours, la caricature de Baudet où l'on voit deux chiens dans une cour. Chacun des chiens a son piquet. Chacun des chiens est donc attaché par une chaîne à ce piquet. L'un dit à l'autre, parce qu'on a entendu parler de la SPCA contre l'enchaînement permanent des animaux. Et il y a un chien qui dit à l'autre « À quoi ça sert de nous enchaîner en permanence, hein ?» Et l'autre y répond, d'autant plus que bientôt, il n'y aura plus aucun facteur après qui courir. La chronique de Lise Ravary ce matin s'intitule « Travailler pour des peanuts ». Il y a une dizaine d'années, écrit-elle, le New York Times avait publié un reportage choc sur un ancien vice-président aux finances d'une entreprise manufacturière qui, après avoir été congédié, vendait des jeans chez Gap en empochant un salaire d'étudiant. C'était ça ou rien. Je me souviens d'avoir lu ce reportage la peur au ventre. Et si un jour cela m'arrivait? Le gag à l'époque, c'est que j'irais travailler chez Dunkin' Donuts. J'avais le même âge que cet homme. J'étais au même niveau hiérarchique au sein de l'entreprise qui m'employait à l'époque. Je trônais au sommet de ma profession selon un reportage consacré à ma petite personne dans le Globe and Mail. Intouchable, quoi. Quelques temps après, au terme d'un long congé de maladie, j'ai été remerciée. Mon entourage répétait « Avec tes contacts, tu vas trouver rapidement ». J'étais sûre de revenir à l'ancien train de vie, jusqu'au jour où la dirigeante d'une entreprise de presse auprès de qui j'avais sollicité du travail m'a dit le plus sérieusement du monde « Mais Lise, tu as eu une si belle carrière ». Sous-entendu, c'est terminé pour toi ma vieille. J'avais 53 ans, elle aussi en passant. J'ai fini par comprendre que j'étais non seulement trop vieille mais aussi trop chère. Alors je suis retournée au bas de l'échelle, acceptant de bloguer gratuitement au Huffington Post pour qu'on se rappelle qu'avant d'être patron de presse, j'étais journaliste. Patrick Lagacé a signalé mon retour dans son journal, un privilège offert à peu de gens et le vent a tourné. On m'a offert un blog, payé, au Journal de Montréal et au Journal de Québec et quelques mois plus tard, une chronique. Mais entre-temps, dit Lise Ravary, j'avais épuisé mes économies. Aujourd'hui, dit-elle, j'adore mon travail, mais au lieu d'habiter une maison victorienne et de conduire une Mini Cooper toute neuve, je loue un 5,5 au deuxième étage d'un duplex et je me déplace en minoune, mouture, 1996. Mais je n'ai pas de regrets. Je n'ai jamais été aussi libre, dit-elle. Cela peut arriver à n'importe qui et pas seulement aux travailleurs en usine. Il faut être prêt, financièrement et émotivement. Car les conséquences d'un échec à trouver du travail et un salaire convenable en fin de carrière n'ont rien de réjouissant, comme le confirment les témoignages dans le dossier « Les salaires » que l'on peut lire également dans le journal. Et puis Isabelle Maréchal qui se pose cette question face au cancer, accepter ou refuser les traitements? Elle a une amie récemment qui est atteinte pour la quatrième fois, récidive pour la quatrième fois de cancer, qui lui a posé cette question. Elle ne sait pas quoi répondre, Isabelle Maréchal. Il y a José Blanchette dans Le Devoir, elle nous le rappelle, qui a, elle, arrêté cette croisade contre la chimio qui tue. C'est un fait que tous ne sont pas égaux devant la chimio, dit Madame Maréchal. Pour certains, les effets secondaires sont lourds et éprouvants. Quand le remède pour vous soigner devient plus toxique que le mal qui vous afflige, est-il normal de le remettre en cause? Certainement. Tous les malades atteints de cancer doivent-ils rejeter leur chimio? Bien sûr que non, dit-elle. Ce serait faire abstraction du gros bon sens et du fait que chaque cas est unique. À nous de nous faire dire, d'être plus responsables face à notre santé, d'agir comme si nous étions notre propre médecin. Nous avons pris le système au mot. Le patient pose des questions, il ne gobe plus tout cru les réponses parfois laconiques de son oncologue. Le malade se rebelle. Pour certains, cela passe par un refus de traitement, un droit tout à fait légitime. Mais il faut se garder d'emporter trop de gens dans la tempête. Ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Il est bien difficile de faire la part des choses quand il est question de notre propre vie, quand la mort se pointe et qu'elle menace de nous emporter, quand la peur nous glace le sang. Comment savoir à cet instant précis si on prend la bonne décision? Alors elle a fini par répondre à son amie « Tu as déjà eu de la chimio et t'es passé au travers de 3 cancers. Si c'était moi, j'accepterais le traitement, le 4e. » Elle a souri. « Je sais que ma réponse ne l'a pas complètement rassurée. Elle doute encore. Elle m'a confié aujourd'hui qu'elle n'a jamais eu aussi peur de mourir que maintenant. » C'était signé Isabelle Maréchal dans le Journal de Montréal.
Chaque fois que tu souris, les dimanches en bord de mer. Quand je compte en grains tes baisers, même le plus grand des déserts n'emplirait pas mon sable.
Alors voilà, ils sont venus, ils sont tous là, Serge Roy, Franceline Nieuwer et Roger Roy, ce sont mes collaborateurs, mes premières voix de service pour ce matin.
Oui, 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 Serge Blake.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Roger, avant
J'aime
que...
J'aime beaucoup le prénom Serge, mais il ne m'appartient pas.
Oui, c'est vrai, oui, à chaque fois je fais la bêtise.
Non, mais c'est normal.
Serge
Hamelin
et Roger Roy.
Dans la série des prénoms.
Oui.
OK. Par exemple, une série de prénoms, oui. Nommez-les. Alors, Serge et Roger font partie de la même série de 10 prénoms qui veulent à peu près dire la même chose psychologiquement.
Ah oui.
Et c'est pour ça
qu'on appelle les Roger, les Serge et Roger, parce qu'on a des affinités psychologiques.
Avez-vous des sources, Serge?
Avez-vous des sources,
oui,
Serge?
Des permet... sources sûres.
Qui vous permet de faire une telle affirmation?
Ah, ben, allez sur Internet, tout est là. Hein.
Ah, ben oui, bon, Internet, Internet. Bonjour, Franceline.
Oui, bonjour, Clotilde.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Bon, alors, dites-moi, là.
Oui.
Hein? De quoi sera-t-il question ce matin dans vos papiers du jour?
Ah ben, il ne sera pas question, il sera réponse.
Il sera réponse.
Oui,
oh!
Oui, oui. Alors, moi, c'est l'accueil Bono, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Oui.
Oui, ah, ben oui.
Vous n'êtes pas allé là déjà?
Non, 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 mais non, mais non. Mais je veux dire, on connaît l'accueil Bono, mais donc, vous, c'est quoi? C'est un portrait, un zoom, un gros plan sur l'accueil Bono?
Je vais vous parler de cet accueil-là.
OK, d'accord.
OK, qui est très accueillant, d'ailleurs.
Oui, d'accord.
Oui, oui, alors, de quoi ça retourne, là?
Voilà, c'est ça.
C'est beau?
Et puis
on va aller au cœur de l'accueil Bono. Et l'autre, ensuite, de ça, je vais continuer. Vous allez me donner une maladie, un malaise, par exemple.
Le stress. Voilà.
Justement, on l'avait trouvé.
Oh!
Là, vous en rajoutez. Oh! Alors, moi, je vais aller voir le stress, puis je vais vous dire quoi manger.
D'accord. Franceline, oui, au programme du jour.
Oui, moi, ça va être un peu plus sérieux. Ça parle d'éducation. Et mon premier sujet sera sur les enseignants qui sont peu consultés et mal préparés à l'enseignement des nouveaux programmes. Enfin, nouveau, celui d'éthique et culture religieuse date déjà de 2008 et celui qui est en expérimentation actuellement sur l'éducation sexuelle.
Oui, c'est ça.
Alors, ça va être ce premier article. Et l'autre va concerner le TDAH.
Oui.
Vous savez, ce trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et je vais l'aborder à partir du livre de Jean-Claude Saint-Onge, qui a écrit « TDAH, point d'interrogation pour en finir avec le dopage des enfants ». Et il donne il a une hypothèse qui est sociale.
Mm-hmm.
Donc, ça va être sûrement très controversé. Mais enfin, je pense que c'est une...
D'accord.
Ça présente quand même beaucoup d'intérêt.
Monsieur Roger Roy.
Alors moi, je vais effleurer les questions juridiques.
Pardon?
Les questions juridiques, oui.
Oui?
Le travail d'un juriste occidental en Chine, comment ça se passe? Et le français et les marques de commerce.
Le français et les marques de commerce.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans.
La francisation, là. Non, c'est le problème actuel.
OK,
la France. Le problème qui est actuel. Mais je vous parle aussi de monde inconnu. L'intestin et le cerveau de... Poutine.
Oui, mais...
Ça vous intéresse,
de
ça
mais
Poutine,
oui.
Oui.
Il va nous parler du cerveau de quoi? De qui?
De Poutine.
De Poutine.
Vladimir, je pense, son prénom.
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça se digère bien?
Alors, petite instru, et on va décider qui commence, et puis ensuite, on va partir le bal. Alors, c'est Franceline qui parle bal ce matin.
Oui, je parle bal avec un article qui était écrit dans le Devoir du 11 septembre 2015. Il a été écrit par Philippe Orfali et il s'intitule « Des enseignants peu consultés et mal préparés ». Trop peu formés, trop mal outillés, les enseignants chargés du cours d'éthique et de culture religieuse se sentent toujours mal préparés et encadrés pour transmettre cette matière à leurs élèves près de 7 ans après son implantation dans la controverse, révèlent donc les résultats d'une étude obtenue par Le Devoir. Ex-enseignante et doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, la chercheuse Anne-Marie Duclos consacre sa thèse à la réception du programme Éthique et culture religieuse, en abréviation ECR, parce que je vais le dire plusieurs fois. Donc, ce programme d'éthique et culture religieuse, c'est les enseignants du primaire de la région montréalaise. Son analyse porte sur l'implantation et la mise en œuvre de ce cours en contexte de controverse en 2008, déjà. La publication imminente de ses recherches coïncide avec la mise sur pied d'une autre matière controversée cette année, le nouveau programme d'éducation sexuelle. Parmi les enseignants du primaire ayant obtenu leur baccalauréat en enseignement avant l'implantation du cours d'ECR, c'est-à-dire la majorité des enseignants du Québec, près de 60% ont reconnu n'avoir aucune formation pour transmettre la matière à leurs élèves, tandis que 17% avaient reçu 5 heures de formation et 25% plus de 6 heures. Des données qui étonnent Mme Duclos. 6 heures pour enseigner toutes les grandes religions et philosophies du monde, ce n'est pas beaucoup.
C'est ridicule.
Même si la formation à elle seule n'est pas garante de la réussite ou de l'échec du programme, on peut se demander si cela est suffisant.
Oui.
Dans bien des cas, la formation liée au programme de CR était offerte lors de journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire, précise-t-elle, laissant entendre que les enseignants ont choisi de participer à d'autres types de formations ces jours-là. À l'époque, il fallait former 23 000 enseignants du primaire et 2 400 spécialistes secondaires. Ça fait beaucoup de monde, d'autant plus que le gouvernement a coupé le financement de la formation ECR dès 2009, précise-t-elle. Cette annulation aussi rapide, qui n'était pas prévue à l'origine, a pu contribuer au faible taux de certification pour l'enseignement de l'ECR. Le sondage mené auprès de 114 enseignants du primaire d'une commission scolaire francophone de Montréal, chargée de donner ce cours, montre aussi que la plupart d'entre eux n'ont pas été consultés ni dans l'implantation, ni dans la mise en œuvre du programme d'éthique et de culture religieuse.
C'est fou.
Ouais. Ils n'ont été que 3% à juger avoir été suffisamment sollicités lors de cette étape de la mise en place du programme.
Oui.
Mis sur pied en 2008, le cours d'éthique et de culture religieuse présente un aperçu global des différents rites et religions du monde du point de vue neutre et objectif, en y apportant une perspective historique. Il encourage également l'élève à réfléchir aux questions éthiques et sociales. Ça me semble effectivement intéressant, ce type de programme. Enseigné dans toutes les écoles de la province, il a une optique strictement laïque et culturelle. La loi permet toutefois d'exempter une école privée du programme si le cours de remplacement est jugé équivalent. Ce qui, par exemple, a été le cas du collège Loyola dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, je crois.
Oui.
Plusieurs parents avaient exprimé leur mécontentement lorsque Québec avait choisi de mettre fin à l'enseignement religieux traditionnel pour le remplacer par le cours de CR en 2008. Les enseignants avaient pour leur part fait entendre leurs réserves sur l'élaboration du nouveau cours ainsi que sur sa méthode d'implantation. Encore aujourd'hui, une majorité d'enseignants, 63%, se demandent comment améliorer le programme, même si celui-ci n'est en place que depuis quelques années, ce qui laisse Mme Duclos songeuse. Peut-être aurait-il mieux fallu consulter les enseignants dès le départ.
Ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, pourquoi ne pas amener, comme on le fait dans les universités ou dans les collèges, des gens qui seraient déchargés de cours.
Exactement.
Mais qui pourraient être, bon, qui on le sait, sont quand même beaucoup moins bien payés, qui au moins assureraient un service, une vraie éducation quoi, dans le domaine. Enfin bon, c'est une question que je me pose.
Le problème, dit de nouveau Mme Duclos, ne semble pas être la réforme elle-même, les programmes ou les enseignants, mais les contraintes avec lesquelles ils ont dû gérer leur mise en œuvre et les contextes dans lesquels ils doivent continuer à les enseigner.
Eh oui.
Madame Duclos dit craindre que le gouvernement du Québec ne répète ses erreurs avec la création d'un nouveau programme d'éducation sexuelle à l'étape du projet pilote depuis la rentrée scolaire, cette rentrée en 2015. Ce projet pilote se déroule depuis la rentrée dans une quinzaine d'écoles accueillant quelques 8200 élèves et durera 2 ans. Il devrait par la suite être intégré au programme de tous les élèves dès 2017, donc cet programme d'éducation sexuelle. Le ministère de l'Éducation qui encadre le projet s'est fait avare de commentaires sur le détail des apprentissages prévus, mais le programme offrirait un certain niveau de latitude aux enseignants et autres intervenants appelés à transmettre la matière aux élèves.
C'était donc un papier de monsieur...
De monsieur Philippe Orfali, écrit dans le Devoir du lundi 14 septembre 2015.
Merci.
Alors, dans le journal du Barreau du Québec.
Ah oui.
Du mois de septembre. C'est un journal format...
Oui.
Format métro, format...
Format papier pour l'instant.
Le Montréal, oui. Bon, on reparlera de ça. Bon. Marc-André Séguin signe 2 textes. Un qui est intitulé « Comment pratiquer en Chine? » Comme c'est pas facile. Mais d'abord, marque de commerce, quelle réforme à venir sur l'affichage?
OK.
Vous savez que depuis un jugement du printemps dernier, une entreprise dont la marque de commerce est dans une autre langue que le français peut utiliser cette marque sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter de termes français, génériques ou spécifiques, comme l'exigeait l'Office de la langue française. Le motif des tribunaux, le règlement sur la langue de commerce de la loi 101 n'autorise pas l'Office à exiger ça des entreprises.
Mm-hmm.
Alors, en d'autres mots... Ce qui arrive, c'est qu'une personne peut décider, mais elle, qui est en autorité, peut décider, mais elle doit s'autoriser d'une loi ou d'un règlement adopté.
Oui, oui.
Alors, si ni la loi ni le règlement ne l'autorisent à prendre des directives, c'est comme pour le NICAB. Le ministre de l'Immigration a pris une décision, a dit « je vais émettre une directive ». Vous ne porterez pas le NICAB lors d'une cérémonie d'assermentation. Sauf que ni la loi ni le règlement ne l'autorisaient à le faire. Maintenant, on dit qu'on est gouverné par ce qu'on appelle la « rule of law », alors c'est la règle de droit qui s'applique. Ce n'est pas parce qu'un individu qui est si haut placé soit-il qu'il peut agir de cette façon-là. Alors, au mois de juin, la ministre Hélène David a annoncé que le gouvernement du Québec modifierait le règlement sur la langue de commerce pour assurer, disait-elle, une présence du français sur les façades extérieures des commerces de façon permanente et visible. « Nous proposerons, dit-elle, des moyens efficaces pour que l'affichage extérieur des entreprises » reflète mieux le visage français du Québec sans altérer la marque de commerce. Alors, elle prend des précautions, elle dit toujours, sans altérer la marque de commerce. Il ne s'agira donc pas d'une exigence de traduire la marque de commerce, il s'agit plutôt de l'ajout d'inscription ou de mention. Alors, le ministre, même le gouvernement, ne peut pas exiger qu'une marque de commerce soit traduite ou qu'on n'utilise qu'une marque de commerce en français. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution canadienne qui le dit. Les marques de commerce, c'est de juridiction fédérale.
Mm-hmm.
C'est dans son domaine de compétence. Et le gouvernement du Québec ne peut pas exiger ça.
Moi, j'essaie de trouver un exemple concret. Je ne sais pas, évidemment, c'est toujours quand on en cherche qu'on n'en trouve pas.
Oui.
Toys R Us, par exemple.
Ça, c'est
plus anglo que ça. voilà.
Oui.
À ce moment-là, on ne pourrait pas traduire ça, mais il faudrait qu'il y ait, en dessous de Toys R Us, quoi, jouets, comment on pourrait traduire.
Le royaume des jouets.
Le royaume des jouets, c'est ça.
Peu importe.
À ce moment-là, on pourrait ça.
C'est ça. Alors, dans le jugement, c'était Best Buy. Alors,
Best Buy.
Buy. Alors, comment est-ce qu'on traduit « Best Buy » Alors, est-ce qu'il faudrait dire « magasin d'électronique » ou faudrait ajouter un terme là, dans ce sens-là?
« Best Buy ».
Achète mieux.
Achète mieux, oui, c'est ça. Non, ça
hein?
Peut pas
achète
aller.
Mieux?
Oui. Ouais. D'après plusieurs juristes, le gouvernement...
Passe ton chemin, « Best Buy ». Excusez-moi, Roger.
Non, c'est bon. D'après plusieurs juristes, le gouvernement du Québec peut contraindre le commerce à coller des termes en français.
Mm.
Mais il ne peut pas exiger que ce soit uniquement en français. Et on veut le faire. Par exemple, Starbucks a collé le mot café à Starbucks.
Oui, oui.
Café Starbucks. Et même, on dit, je ne le connais pas très bien, là, de l'art de l'article, il y a une entreprise qui s'appelle Spring et on a ajouté boutique. Alors, il y avait Radio Shack avant. Je ne sais pas si Shack, c'est français ou non. Dans notre jargon québécois.
Oui. Non. Non, mais je me souviens. Ben oui, Radio Shack. Oui.
Radio Shack, on avait changé le nom.
Radio Chalet.
Alors, pas tellement, non.
D'autres disent, si vous commencez à coller des termes génériques comme ça pour désigner, là, à ce moment-là, vous allez toucher à la marque de commerce, donc ça pourrait être encore contesté devant les tribunaux. On n'est peut-être pas sorti de l'auberge, là. Parce que Walmart, par exemple, est-ce que Walmart va accepter d'avoir une indication en français, disant qu'est-ce que ce serait? Magasin général, peut-être pas, autre chose. Mais est-ce qu'il va accepter? Parce qu'il va dire, si vous ajoutez magasin général, vous touchez à ma marque. Donc, il pourrait y avoir un débat juridique encore.
On ne peut pas appeler ça Walmart, hein?
Non, ben, j'y ai pensé, mais je ne l'avais pas dit. Je l'entends de temps en temps.
Non, mais moi, oui.
Mais c'est quoi la traduction de Walmart?
C'était pas un monsieur Wall quelque chose?
Oui, c'est possible, je ne sais pas du tout.
Je pense que c'est son nom, là.
C'est pas un mur, là. Il n'y a pas le mot mur. C'est pas un mur à mur? Mart, mur à mur, genre?
Peut-être. Alors, c'est ça, voilà pour les marques de commerce.
OK, d'accord.
Le débat n'est pas terminé. Si je peux tomber sur mon article dont je voulais vous parler sur ce qui se passe en Chine...
Ça peut être peut-être pour la deuxième demi-heure?
Ça peut être pour la deuxième demi-heure. Oui, maintenant, j'ai un sujet bien plus intéressant pour la deuxième demi-heure. Ah. C'est pour notre intestin, là.
Ah oui, mais on aura le temps aussi. Oui. Surtout alors... que je sens qu'avec mon ami Serge, les intestins ne sont pas loin non plus. Ah. Attendez un petit instant, mon ami. Alors, on s'envole au pays de la santé avec vous, mon ami, ou non?
Non, pas tout de suite. Avant, il faut être malade un petit peu.
Oui,
hein?
c'est la visite.
Alors, écoutez, c'est un peu bi-reportage et les propos ont été recueillis et textes rédigés par Claire Lavoie.
Oui.
Et c'est pour les gens qui sont dans la rue, ça fait drôle, Claire Lavoie.
Oui.
Puis c'est les itinérants.
Oui.
Bon, alors, on parle de l'accueil Bonneau. L'art de créer des liens, projet d'intervention de milieu de l'accueil Bonneau. Un matin de printemps dans le Vieux-Montréal, autour de l'accueil Bonneau, rue de la Communeste, l'ambiance est calme et conviviale. Oui. Les gars jasent dans le parc adjacent et peu à peu, ils s'agglutinent près de la porte d'entrée. À 8h pile, Yannick et Mathieu ouvrent le portail en les accueillant avec un sourire. Portrait d'un milieu de vie transformé par l'art de créer des liens. Hein? On va aller vérifier ça tantôt ce matin. Alors, Yannick Gingras est responsable du projet d'intervention de milieu de l'organisme plus que centenaire qu'est l'accueil Bonneau. Âgé d'à peine 22 ans, il impressionne par sa douceur, son aplomb et sa grande humanité. Et cette semaine-là, il est secondé par Mathieu Lefebvre, un nouveau venu dans l'équipe, qui se distingue par son sens de l'humour et sa jovialité. Le regard bien aiguisé, à l'affût du moindre changement, les deux hommes arpentent le territoire limitrophe à l'institution, et quelques cartons ici, un abri de fortune là, sont autant d'indices laissant présager une éventuelle intervention dans cet environnement où cohabitent résidents bien nantis et personnes en état d'itinérance.
Résidents bien nantis?
Des résidents bien nantis entourent l'accueil Bonneau. Il y a des condos d'un luxe.
Ah, OK, oui, je comprends,
je comprends.
Oui, non, absolument. Mais moi, j'imaginais à l'intérieur, je comprenais mal. Non, d'accord, non. Oui,
voulez-vous
effectivement.
Voulez-vous que je recommence?
Non, pas du tout. Non, c'est moi qui me suis perdu
c'est correct.
Dans les dédales du
Vieux-Montréal.
Quand
les explications ne sont pas trop compliquées, ça me va.
D'accord.
La communication avant tout. Hein, c'est ça.
Oui.
En partenariat avec l'arrondissement de Ville-Marie, le SPVM, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, le CSS, Jeanne Mance et l'Association des résidents du Vieux-Montréal, l'Accueil Bonneau a mis sur pied un projet d'intervention de milieu et de cohabitation sociale en 2011. L'écoute, l'intervention directe, un numéro de téléphone dédié, des partenaires engagés et des préposés de milieu dévoués en sont les ingrédients de base. Et l'adoption d'un code de vie et une approche basée sur le développement du lien plutôt que sur des interventions coercitives ont aussi contribué à transformer le secteur. Mm-hmm. En moins de 5 ans, le discours a changé. Le ton des plaintes n'est plus le même.
Ah.
On est passé de « il y a un pouilleux devant chez moi
oui. »,
eh bien, là maintenant, il y a un monsieur qui dort dans le parc devant chez moi depuis quelques jours. Pouvez-vous aller voir s'il est correct? Ça a changé, hein?
Wow.
Alors, il y a moins de préjugés maintenant, soutien Yannick. On a pris le temps de s'asseoir avec les résidents et les commerçants et d'écouter la population, ajoute-t-il. Et nos partenaires ont tout de suite cru au projet. Ils sont là à toutes les rencontres. Et c'est un partenariat solide qui nous a valu l'an dernier de remporter le prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux oui. dans la catégorie partenariat.
Eh bien, bravo.
Gaëtan, oui. Pierre et Alain, trois hommes dans la cinquantaine ayant connu la rue, forment l'équipe des préposés de milieu pour la saison 2015. Engagés dans une démarche de réinsertion sociale, ils vivent aujourd'hui chacun dans un appartement et sont très enthousiastes devant les défis proposés par cet emploi. L'accueil des usagers de l'accueil Bonneau, hein, l'accueil,
oui.
je sais bien, hein, des usagers de l'accueil Bonneau, l'entretien du territoire, l'information aux touristes et la sensibilisation à la prévention des vols dans les voitures s'inscrivent dans leur quotidien. Et ça va faire 4 ans en octobre hein, que je suis sorti de la rue.
L'information aux touristes.
Oui, oui, oui. Ben oui, parce qu'il y a des touristes dans ce coin.
Mais
dans
oui,
non,
c'est
Montréal,
ça. Oui, oui, mais je trouve ça bien qu'il y ait une information auprès des touristes, qu'ils sachent, oui, voilà ce qui arrive.
Ben, oui, voilà.
Voilà ce qu'est l'accueil Bonneau, et nous aussi, à Montréal, comme vous, certainement. Dans... Non, non, je trouve ça très bien.
Ah, c'est le fun, hein? Mm. Ça, c'est une réalité. Hein?
Oui.
Ah, bon?
Oui.
Alors, ça va faire 4 ans en octobre que je suis sorti de la rue, et c'est dur, la rue, pas moi, là, c'est Gaëtan qui dit ça. C'est une expérience de vie, mais ça marque, souligne Gaëtan. Et là, j'ai une deuxième vie, et cet emploi de préposé de milieu est stimulant et motivant, et les 4 volets amènent des défis plus grands et de la variété dans les tâches.
Mm-hmm.
Pierre n'en est pas à son premier emploi, l'accueil Bonneau. C'est ma première année à l'extérieur, raconte-t-il. Ce que j'aime de ma job, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent ici qui ne connaissent pas les ressources. Et nous autres, on les a toutes faites, les ressources. Mm-hmm. On est capable de les diriger aux bons endroits. Et pour cet ex-gars de la rue, conseiller ses pairs, les aider à se sortir de l'itinérance est une source de grande satisfaction. Même discours chez Gaëtan. Quand j'ai quitté la rue, 3 ou 4 gars ont suivi 3 semaines plus tard. Ils se sont dit, si Gaëtan est capable de le faire, on peut le faire aussi.
Oui,
hein?
Oui.
Alors, c'est la même chose en étant proposé 2 milieux et inconsciemment, on peut influencer les gens. Alain, le nouveau venu de l'équipe, est plus solitaire, lui. Il est réservé. Son passage dans la rue fut peut-être bref, mais assez long pour y avoir goûté. Et comme il le dit avec une pointe d'émotion dans la voix, motivé à développer ses habiletés relationnelles, il s'empresse de répondre aux touristes en quête d'informations.
Mmh.
En poste depuis mai, Alain voudrait déjà tout savoir, tout connaître de son environnement. Et alors, équipé de cartes touristiques et de brochures qu'il étudie chez lui après le boulot, il adore vraiment son nouvel emploi. Perfectionniste et minutieux, aucun détritus ne lui échappe. Et je vois toujours quelque chose à ramasser. Je n'endure pas que ce soit sale, alors je nettoie.
Mm-hmm.
C'est valorisant, le vieux port. C'est touristique. C'est un bel endroit. Mm? La complicité entre Yannick, Mathieu et les préposés est palpable. Et Yannick ne tarit pas d'éloges envers Gaëtan, Pierre et Alain qui remplissent son quotidien et qu'il trouve valorisant. Son but, que les 3 hommes soient heureux en travaillant sur ce projet, qu'ils soient toujours plus autonomes. Et ils sont essentiels au projet d'intervention de milieu et grâce à leur travail, les gens se sentent en sécurité. Ils sont aussi des références pour les autres.
Oui.
Il y a quelques années, des gars les ont vus faire la file avec eux et maintenant, ils les voient avec un travail, un logement et une stabilité. Alors, qu'en est-il de l'avenir pour ces hommes au parcours atypique? Leur réponse respire la simplicité et l'authenticité. J'ai 57 ans, mon but est de ne pas retourner dans la rue, tout simplement, et c'est un combat de chaque instant de ne pas retomber dans le piège de mes vieux démons, explique Gaëtan. À l'automne, je pense bien retourner à l'intérieur, retrouver mon nouvel emploi au chaudron ou quelque chose d'autre, indique Pierre. Et les portes sont grandes ouvertes à l'accueil Bonneau pour ceux qui le veulent bien. Alors voilà.
Fort intéressant. Hein? C'est vrai que qui d'autre que des gens qui ont connu la rue peuvent maintenant secourir ceux qui la vivent encore quotidiennement. Quoi.
Oui, oui. Oui, je trouve ça que intéressant que l'accueil Bonneau devienne aussi accueillant.
Oui, non, mais, oui, hein? Mais c'est vrai, oui. C'est vrai.
J'entends des bruits, mais entendez-vous des bruits?
Et qui informe aussi. Ouais. Merci beaucoup, Serge. C'est on se plaisir. Retrouve dans quelques secondes parce que j'ai envie de vous garder autour de moi. D'accord?
D'accord.
OK. Et c'est la deuxième partie qui commence avec mes trois collaborateurs du lundi matin qui sont autour de la table et on va repartir dans quelques secondes avec Roger.
Oui, alors
dans quelques secondes, Roger. On va s'habituer, on va s'habituer, on va s'habituer.
Ça va aller beaucoup mieux maintenant, oui, avec ce petit air entraînant. Dans l'actualité du 1er octobre, Jacques Godbout commande deux essais sous le titre « Des mondes inconnus ». Quels sont ces mondes inconnus? L'intestin humain. Alors, j'en parle plus tard. Là. Mais d'abord, le cerveau de Poutine. Le titre de l'essai « Dans la tête de Poutine » est l'œuvre du philosophe français Michel Eltchaninov. Et M. Eltchaninov a écrit un livre qui apparemment est très intéressant. Et Jacques Godbout nous en donne un aperçu.
OK.
Il dit, il n'est pas nécessaire, c'est assez surprenant par bout, vous allez voir, il n'est pas nécessaire de déborder de compassion pour se rappeler que si les Occidentaux se réjouissaient il y a 25 ans de l'effondrement de l'URSS, les Russes, par contre, étaient aux premières loges d'une véritable catastrophe. Le communisme soviétique rendait l'âme et tout un peuple qui avait rêvé puis souffert au long du 20e siècle se sentait désormais vaincu et humilié. C'était pourtant l'URSS qui, la première, avait contré la conquête nazie, sauvant l'Europe, et qui plus tard avait envoyé dans l'espace un premier cosmonaute. La Russie tombait de haut. À cette époque, Vladimir Poutine travaillait en Allemagne de l'Est. Officier du renseignement soviétique, il pratiquait le métier d'espion, dont il n'était pas peu fier. Né en 1952 à Leningrad, rebaptisé évidemment Saint-Pétersbourg, il a fait des études de droit dans cette ville martyre. En 2003, il entreprenait la restauration de cette magnifique cité, née 300 ans plus tôt. L'homme a conservé de ses esclandres de mauvais garçon, on le traite souvent de voyou, et de son passé de champion de judo, le plaisir de l'affirmation virile. Chez Poutine, la fierté, la discipline militaire et un relent de soviétisme nourrissent une profonde haine du fascisme. Utilisant la religion, tout en gardant le clergé à distance, Vladimir Poutine favorise la famille traditionnelle et vilipende l'homosexualité. En somme, il possède une nature large, ça c'est entre guillemets, qui lui permet avec la même sincérité d'être à la fois idéaliste, mais aussi cynique. Élu président en l'an 2000, conseillé entre autres par Solzhenitsyn, rien de moins, Poutine veut redonner à ses concitoyens la certitude de toujours appartenir à une grande puissance mondiale. Il s'est d'abord attaqué aux finances publiques et privées en tant que libéral qui croit à l'économie de marché. Par ailleurs, et voici ce qui est assez surprenant, en Russie, on prend la culture et la philosophie au sérieux. Michel Eltchaninov nous apprend que comme étrenne du jour de l'an 2014, Vladimir Poutine a offert des ouvrages de philosophie aux hauts fonctionnaires, gouverneurs de régions et cadres du parti Russie Unie. Voilà donc que tout son gouvernement se trouve en train d'étudier Iline, Berdiaev et Soloviev, des intellectuels des 19e et 20e siècles, pour impressionner le chef de l'État, bien sûr. Il faut savoir que le président, justement, élabore et précise, de discours en discours, ce qu'il appelle une idée russe, discutée dans les colloques inspirés de diverses tendances slavophiles, asiatiques ou européennes. Vladimir Poutine, écrit Eltchaninov, se voit comme un guide de la nation dans une démocratie authentique. Remarquez bien, démocratie authentique. Il insiste sur l'importance d'être conservateur, le souci d'ancrer la morale dans la religion, défendant la mission historique du peuple russe face à l'hostilité millénaire de l'Occident. Bien sûr.
Cette hostilité a plusieurs visages quand le mouvement politique orange à Kiev, peut-être encouragé par la CIA, a laissé entrevoir une Ukraine s'alliant à l'Europe. Moscou, pour protéger son accès à la mer et faire mousser le patriotisme, a annexé la Crimée au nom des russophones qui l'habitaient. Vladimir Poutine voit le destin de la Russie se réaliser dans la construction d'un empire eurasien, multiculturel et multireligieux, unifié par la langue russe avec le rouble comme monnaie. Menacé d'être emmuré par l'OTAN, Vladimir Poutine regarde vers l'Asie tout en surveillant les frontières d'hier pour comprendre ce que le président a en tête. L'essai de Michel Alchaniov est particulièrement éclairant. Alors, Godbout agite que c'est de lecture facile et passionnante. Oui. Mais ensuite, il dit, maintenant, je pourrais parler, c'est Godbout qui dit, enchaîner en évoquant des ouvrages consacrés à la démocratie ou à la religion, mais je préfère vous inciter à vous procurer un livre étonnant, instructif, drôle et qui ne peut que vous toucher de près, Le charme discret de l'intestin. Joliment illustré par la sœur de l'auteur qui est Julia Enders. Okay. C'est une Allemande. Il dit cet ouvrage traduit en 30 langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires en Allemagne est un bijou d'humour et de connaissances médicales qui se laisse dévorer. Alors, c'est un livre de 351 pages sur l'intestin, il faut le faire.
Quand même. C'est long, l'intestin, quand même. Hein? C'est pas...
Est-ce qu'on a le temps pour ajouter quelques mots?
Bien sûr.
La rumeur veut que nous ayons deux cerveaux.
Oui.
Celui qui mène le monde et l'autre plus discret, disons, caché au cœur du tube digestif, dont Julia Enders explore l'importance. Aucun médecin de famille, aucun cours de biologie, aucune émission de télévision, aucune émission de radio, j'ajoute là, ne peuvent rivaliser avec ce brillant ouvrage consacré à notre vraie vie intérieure et au travail opiniâtre de nos intestins.
Ah ben oui, non, ça...
Considérant l'intestin comme un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, Julia Enders nous invite à un voyage guidé de la bouche à l'anus. Au plus profond de nous, sous le rempart protecteur de l'épiderme, on ne chôme pas, savez-vous. On écoule, on pompe, on aspire, on écrase, on désagrège, ou on répare et on réorganise. La jeune Allemande explique de façon amusante le travail phénoménal de l'intestin grêle, propre et sans odeur, le rôle de la salive, des bactéries, du réseau nerveux qui serait ce deuxième cerveau connecté au premier.
Alors... Non, mais c'est vrai que c'est fascinant. Hein. Bon, je veux dire, ça nous fait rire forcément, ça nous fait rire, ça nous fait un peu rire.
Je me retiens pour ne pas faire de commentaires.
Regardez, là, ça, évidemment, on est resté très enfant là-dessus. Mais
351 pages sur le sujet, c'est quand même le fait.
Ça s'appelle
Le charme discret de l'intestin.
Ah, j'en veux.
Ah oui, mais moi, honnêtement, vous m'avez vraiment donné envie de lire ce livre-là. Je vous jure que je vais aller me le procurer.
Que ça vous avait envie.
On le trouve ici, évidemment. Évidemment,
j'imagine que oui.
C'est et vous avez trouvé ça dans quoi?
Ça, c'est dans l'actualité, c'est Jacques Godbout.
Bon, alors c'est sûr. Alors, merci beaucoup, on en sait un petit peu plus grâce à M. Godbout. Merci. Oui. OK, à la page... D'accord, 36.
Je suis rendu à la page 36.
Vous êtes rendu à la page 36?
Pourquoi je suis rendu à la page 36? Parce que ce qui vous affecte présentement, c'est quoi?
C'est un consensus.
Oui. C'est le stress.
Ben oui, c'est le stress. Oh, le stress.
Et qu'est-ce que vous avez à nous proposer,
alors? Moi, je suis dans le livre ici des Éditions de l'Homme, « Aliments, remèdes, prévenir et soulager 50 problèmes de santé, dont le stress ». Et je m'en vais à la page 36... Attention, c'est parti. J'en ai appris des bonnes ce matin. Oh, vous allez voir ça. Alors, le terme stress désigne ce qui se produit lorsque l'on subit une pression réelle ou ressentie. Oh, tout le monde sait ça, je pense. Plus forte que ce que l'on peut supporter. On peut l'atténuer en consommant des aliments à bas index glycémique. Ça s'appelle IG, index glycémique. Le seuil de tolérance de chacun est différent. Quand on se nourrit convenablement et que l'on se repose assez quand on est heureux, on peut supporter plus de pression que lorsque tout ne va pas au mieux. Les symptômes de stress intense sont dus à quoi? À l'adrénaline, une hormone qui nous permet de mobiliser notre énergie pour combattre ou pour fuir. Dans l'étape suivante, l'énergie est consommée au cours du combat ou de la fuite, ce qui neutralise la réaction de stress. De nos jours, cette situation se présente rarement. Aussi, la réaction de stress s'amplifie et consomme notre énergie, nous laissant physiquement et mentalement épuisés. Le stress peut aussi aggraver certaines affections, telles l'eczéma, le psoriasis, les désordres intestinaux.
Ah, voilà, nous en parlions. Voilà. Je me demandais quand est-ce que vous alliez le dire.
Ah, ça nous fait... Ah oui, hein? Alors, une mauvaise digestion est contribuée à la baisse de la libido.
La baisse.
La baisse.
Et non pas la baisse.
J'ai dit la baisse de la libido. Mon Dieu Seigneur. Excusez-moi. Je fais de la dyslexie psychologique. La baisse de la libido, des défenses immunitaires et à la hausse de la tension. Mm-hmm. Il peut aussi provoquer une crise cardiaque, c'est pas compliqué, ou un accident vasculaire cérébral. Bon, alors, ce qui est bon, le stress élève les taux de glucose et de lipides dans le sang. C'est bon, le stress.
Ah bon?
Aussi, quand vous êtes stressé, choisissez des aliments à index glycémique, IG, bas, afin de maintenir l'équilibre du taux de glucose. Prenez des repas maigres, du poisson, des céréales complètes, des fruits et légumes. Faites de copieux petits déjeuners à base de céréales complètes, de gruau ou de muesli, avec des fruits, des yogourts non sucrés, du fromage frais et du lait écrémé ou partiellement écrémé. Le stress en 8 points. Tenez un journal du stress pour identifier les causes. Pensez positivement. Si vous vous sentez capable de dominer une situation stressante, vous y parviendrez plus certainement. Faites des défis, des occasions à saisir plutôt que des menaces. Et si vous n'y arrivez pas, réjouissez-vous d'avoir la chance d'apprendre de vos erreurs. Hein? On penserait à Jacqueline Simoneau ici. Considérez les critiques justifiées comme une chance d'amélioration. Acceptez les compliments sans minimiser ce que vous avez accompli. Faites de l'exercice régulièrement. Ça, une bonne marche rapide neutralise les effets des hormones de stress. Vous vous sentirez plus léger, vous gagnerez en efficacité. Essayez le yoga. Ouais,
oui.
Qui chasse l'anxiété. Et si vos difficultés persistent, comme les miennes, hein, eh ben, envisagez une psychothérapie ou une thérapie cognitivo-comportementale.
Le yoga sans sucre.
Ce qu'il faut éviter, attention, éviter les aliments à IG élevé.
Oui.
Prenez-en peu et associez-les à des aliments à IG bas pour réduire les fluctuations du taux de glucose. En outre, modérez l'ingestion de caféine et l'alcool. La caféine, l'action directe sur le cerveau de cette drogue stimulante, a pour effet immédiat d'accroître la vivacité et de diminuer la sensation d'effort et de fatigue. Cependant, la caféine agit également sur les glandes surrénales qui libèrent les hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. L'excès de caféine vous rend donc irritable et agité et nuit à votre sommeil. Faites en sorte de ne pas prendre plus d'une tasse de café par jour et 3 tasses de thé pas trop fort, de préférence vert ou blanc. Tournez-vous peu à peu vers les boissons décaféinées ou les tisanes de rooibos riches en antioxydants, de camomille, hein, la camomille. Oh,
c'est beau. Bon.
Oh, ça camomille. Relaxe. J'ai déjà été gardien de but, j'avais pris une camomille avant de garder les buts. On a perdu 15 à 1. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais dans les... Et puis je m'étais foulé la cheville parce que j'étais trop mou. Le patin a lâché, la cheville a lâché. Tu sais, on est haut sur patin. Alors, ça a tout étiré. Bref. Alors, si vous buvez beaucoup de boissons caféinées, changez cette habitude graduellement sur une semaine afin d'éviter les symptômes de manque tels que l'agitation, l'irritabilité, l'insomnie et la migraine. Moi, là, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est de précieux compléments. Et ça, je sais que ça fonctionne pour l'avoir essayé. Les vitamines du groupe B. Elles s'épuisent en période de stress et leur carence peut contribuer à l'apparition de la fatigue. La valériane, Ça, c'est fort. C'est sérieux, hein? C'est super
c'est
fort.
C'est
vrai? Aide à soulager de l'anxiété et à relâcher la tension des muscles. Elle procure un sommeil réparateur.
Mmh.
Ah, la valériane, c'est puissant. Oui. La rhodiole, ça, personne ne la connaît, celle-là. Non. Atténue l'anxiété et le stress, et son action énergisante permet de surmonter la fatigue due au stress. Il y en vendent ça sur la rue Saint-Denis, là, aux herbes fines. Hein? La rhodiole. Et
je pensais que le c'était une maladie qui avait disparu, c'est à la rue des...
Ben, c'est avec RH ou comme
ça? RH, la rhodiole. Oui. Rhodiole.
Comme la rhodésie. Hein?
RH, RHU?
RHO.
O.
Oui, la ro.
La rhodiole.
Oui, rhodiole. Bon. Le ginseng coréen est meilleur que le ginseng sibérien.
Ah ben tu...
Ah ben oui.
Ah ben oui. Le ginseng c'est coréen, étonnant. Pour l'avoir essayé, stimule et reconstitue, améliore l'énergie physique et mentale, l'endurance, la force et la vivacité. Alors, ce sont de précieux compliments, oui. De précieux compléments. Le saviez-vous que l'unité qui mesure la quantité d'alcool varie selon les pays? Assurez-vous donc que la mention indiquée sur la bouteille correspond aux données du pays dans lequel vous êtes. Ainsi, en France, une unité correspond à 10 grammes d'alcool pur, en Grande-Bretagne à 8 grammes et aux États-Unis à 14 grammes. C'est différent.
Oui.
Ah oui?
Est-ce que ça donne le stress, c'est quoi?
Ah ben l'alcool, attention à l'excès d'alcool.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une bouteille à 12 % en France est moins alcoolisée qu'à 12 % aux États-Unis?
Bon, je recommence. Alors, prenez une bouteille à 10 grammes, prenez une bouteille à 8 grammes, prenez une bouteille à 14 grammes et vous m'en donnerez des nouvelles.
D'accord.
Ça va?
Alors, l'alcool, attention à l'excès d'alcool, mais on le sait. Tenez-vous-en strictement aux quantités sans danger. Dans l'idéal, on ne devrait pas consommer plus de 2 ou 3 verres par jour pour une femme. Et 3 ou 4 verres pour un homme. Et veillez à avoir 2 jours absolument sans alcool par semaine. Hein? 2 jours sans alcool par semaine. Donnez-vous un break un petit peu. Ça va? Afin de ne pas boire plus de 14 verres par semaine si vous êtes une femme et 21 si vous êtes un homme. Et les degrés d'alcool de la bière et de vin sont variables. Par conséquent, vérifiez le titre d'alcool de ce que vous consommez. Ah oui. Et sachez que les cafés et les bars servent souvent de bonnes doses. Par exemple, un petit verre de vin à 10 % d'alcool contient près de 10 grammes d'alcool pur.
C'est terrible.
C'est beau. Alors, on déstresse tout le monde.
Oui. Mais déjà, de toute façon, de vous écouter, je trouve ça très, très déstressant.
Ah, vous trouvez?
Oui. Alors, merci beaucoup. Moi, à mon avis, j'aime mieux un petit coup de Serge Hamelin qu'un petit coup de ginseng.
Ginseng coréen.
Qui viennent de la Corée.
Ah, mais les deux sont bons, les deux sont bons.
D'accord. La Sibérie n'est pas bon.
Franceline, vous avez un autre sujet à nous proposer ce matin.
Oui, j'ai le sujet du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Peut-être que Serge pourra nous donner la semaine prochaine quelques éléments alimentaires. Mais moi, je vais dans un autre domaine. Je vais parler du TDAH, ce trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec une hypothèse sociale au niveau de la cause. Et c'est à propos du livre de Jean-Claude Saintonge qui a écrit « TDAH, point d'interrogation, pour en finir avec le dopage des enfants », qui est paru à Montréal en 2015 chez Éco-Société. Alors, c'est un texte écrit par Louis Cornelier qui dit ceci. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, je le dirais souvent comme ça, continue de susciter le débat. C'est une bonne chose. Le sujet est important et soulève des enjeux éducatifs, médicaux, sociaux et éthiques de premier plan. Récemment, le psychiatre et psychanalyste français Patrick Landman a relancé la discussion en publiant « Tous hyperactifs ?» chez Albin Michel, un essai dans lequel il qualifie le TDAH de fiction. Ce mois-ci au Québec, le philosophe et socio-économiste Jean-Claude Saint-Onge, spécialisé dans la critique de l'industrie pharmaceutique, prend la balle au bond en corroborant la thèse de Landmann dans TDAH ? Pour en finir avec le dopage des enfants. Jusqu'à preuve du contraire, dit-il, le TDAH est une construction sociale. Saint-Onge, comme Landmann, avant lui, ne nie pas l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité existent et affectent des enfants. Il conteste toutefois l'idée selon laquelle les causes de ces comportements se trouveraient dans une pathologie du cerveau. Les enfants qui ont ces problèmes ont besoin d'aide, reconnaît le philosophe, mais pour que l'aide soit appropriée, il faut cibler adéquatement la source du problème. La thèse biopsychiatrique, la plus répandue dans les rangs médicaux et dans la population, affirme que les causes du TDAH sont de nature biologique. Ce trouble serait donc essentiellement génétique, la plupart du temps héréditaire, causé par un dysfonctionnement de certains neurotransmetteurs et par conséquent traitable par des médicaments psychostimulants, comme le Ritalin. Les tenants de cette explication tolèrent mal la contestation et dépeignent ceux qui refusent de considérer que le TDAH est une maladie mentale comme des obscurantistes du même calibre que ceux qui considèrent que la Terre est plate, note Saint-Onge. Pourtant, les assises de cette thèse biopsychiatrique sont fragiles et appellent, au nom même de la science, une discussion plus ouverte. Saint-Onge rappelle d'abord qu'il n'existe aucune mesure ou aucun test objectif pour identifier un TDAH. La piste génétique, pour le moment, n'est pas concluante, et celle du déséquilibre chimique demeure au stade de l'hypothèse. Certains affirment que le fait que la prise de psychostimulants réduise les symptômes liés au TDAH prouve la validité de cette dernière hypothèse. Or, réplique le philosophe, ce n'est pas parce qu'un médicament améliore le comportement que cela nous procure la connaissance de la ou la cause. Par exemple, l'alcool aide bien des gens à combattre la timidité, mais cette dernière n'est pas causée par le manque d'alcool au cerveau.
Oui.
Alors d'autres données imposent de réfléchir plus avant. Les plus jeunes enfants d'un niveau scolaire, c'est-à-dire ceux qui rentrent en maternelle, ceux qui sont nés juste avant la date d'admission, vous savez,
oui.
reçoivent plus souvent que les autres un diagnostic de TDAH. Les enfants des quartiers pauvres sont plus à risque, de même que les enfants dont les parents sont séparés. Et si la source du problème, demande Saint-Onge, se trouvait plutôt dans les dysfonctionnements sociaux, économiques et scolaires? N'est-il pas normal qu'un enfant qui a faim ou qui est troublé par la discorde qui règne entre ses parents soit inattentif? Doit-on parler alors d'un problème médical ou d'un problème social? La thèse biopsychiatrique, évidemment, fait l'affaire de bien du monde. L'industrie pharmaceutique, qui n'épargne pas ses peines pour la faire mousser, y gagne des milliards.
Ouais.
Les médecins, talonnés par la précédente et formés à rechercher des causes organiques aux problèmes qu'on leur soumet, y trouvent une solution à leur mesure. Nulle malveillance ici, mais des formations professionnelles. Les écoles, aux prises avec les budgets restreints, y trouvent une façon d'obtenir un peu de financement supplémentaire. Les parents, enfin, naturellement ébranlés par les difficultés scolaires ou autres de leurs enfants, y trouvent une manière de se déculpabiliser. Nulle malveillance ici, encore une fois. Presque tous les parents veulent bien faire, mais refusent souvent de mettre en cause le contexte familial et social. Ainsi, dans le « c'est pas de notre faute, c'est le cerveau », tient lieu de refuge à presque tout le monde. Alors Saint-Onge n'exclut pas la découverte dans l'avenir de causes organiques, dans certains cas graves, d'inattention ou d'hyperactivité. Mais pour le moment toutefois, étant donné la fragilité de la thèse biopsychiatrique et un calcul coût-bénéfice qu'il considère comme désavantageux quant à la prise de psychostimulants, le philosophe propose plutôt de recentrer l'attention sur les conditions sociales, principaux déterminants de la santé, bien avant la biologie et les gènes. Il ne s'agit pas, insiste-t-il, de culpabiliser qui que ce soit, sauf l'industrie pharmaceutique, mais d'accepter de considérer l'hypothèse sociale comme la plus pertinente dans la problématique du TDAH. Il prône donc en ce sens de limiter l'utilisation des psychostimulants à quelques cas graves et d'explorer pour le reste les interventions de type comportemental, la formation des parents, les heures de sommeil, le jeu à l'extérieur et des stratégies d'enseignement imaginatives. La vraie prévention, souligne-t-il en terminant, consiste à sortir les gens de la pauvreté, de l'ignorance, des conditions de travail nuisibles, des environnements toxiques, tant sur le plan écologique que social. Ironiquement, aux États-Unis, la boîte de Ritalin affiche l'avertissement suivant « Gardez hors de la portée des enfants ». Saint-Onge, dans cet essai très solidement documenté, explique pourquoi ce serait une vraiment bonne idée de respecter cette mise en garde. Voilà, donc c'est sûrement un sujet à controverse, on verra suite.
Oui, ça c'est certain.
Et c'était donc écrit par Louis Cornelier dans Le Devoir de samedi et dimanche 20 septembre 2015.
Oui, c'est certain que c'est un sujet à controverse, parce qu'il y en a quelques-uns qui pensent que finalement, les mômes qui sont atteints de ça, ce sont les anciens cancres, les mômes qui foutaient rien, puis qui avaient la tête ailleurs, et puis bon, bah, les parents, évidemment, ne sont pas d'accord avec ça. En tout cas, on en reparlera. Merci beaucoup, Franceline.
De rien, merci.
Petite brève, mon ami Serge.
Ben oui, ben écoutez, moi j'étais dans l'itinéraire en début d'émission et je termine avec ça. À propos du pauvre,
oui,
alors il y a Alfred de Sauvy qui nous dit que la charité a toujours soulagé la conscience des riches, bien avant de soulager l'estomac du pauvre. Oh. Reine-mère Maria Rilke, qui a écrit « Lettre à un jeune poète », magnifique. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses.
Oh, c'est très joli.
Oh, bon, hein.
Très joli.
Oui,
hein?
Voici ce qu'a dit Maxime Martin. C'est un chroniqueur, humoriste. Lorsqu'un athlète ou un artiste de chez nous perce sur la scène internationale, on crie tout haut notre fierté. Mais avant de connaître tout ce succès, combien de fois ces derniers se font-ils dire qu'ils rêvent trop grand et que nous sommes nés pour un petit pain. Après tout, notre expression préférée au Québec n'est-elle pas le mot « petit » Oui, pour prononcer petit, un petit café, une petite marche. On fait un petit voyage et on revient dans notre petit chez-soi. Heureusement, des gens de chez nous parviennent à prouver que les limites des frontières québécoises sont bien plus grandes qu'on ne le pense.
Oui, c'est excellent. Merci, Roger. Franceline,
oui,
petite journée, brève.
On a parlé beaucoup d'intestin, de cerveau dans l'intestin. Moi, je vais vous lire une brève qui s'intitule « Le cerveau dans la friture
».
Une alimentation riche en gras saturés peut perturber le fonctionnement des circuits du cerveau impliqués dans les troubles de l'humeur, la toxicomanie ou l'hyperphagie. C'est la conclusion d'une étude menée par l'équipe de Stéphane Fulton de l'Université de Montréal. Les chercheurs ont constaté que la consommation régulière d'huile de palme chez les rats atténuait la sensibilité du système de récompense de leur cerveau. Les rats devaient consommer toujours un peu plus d'huile pour atteindre le même niveau de satisfaction. Un phénomène qui s'apparente à la tolérance aux drogues, la consommation d'huile d'olive n'avait pas le même effet.
Ah oui, bah oui.
Et voilà.
Mais moi, j'en reviens à l'intestin, là, c'est parce que c'est... Non, mais c'est pas pour faire de la blague là, là-dessus, mais c'est vrai. Avez-vous remarqué que c'est quand même souvent très relié? C'est-à-dire qu'en période de stress, l'intestin déconne.
C'est vrai.
Donc, c'est pour ça que, oui, de dire que les intestins, c'est le deuxième cerveau humain, moi, je trouve ça plutôt très brillant. Merci à vous trois, Roger, Roy, Franceline Yvert. Merci mon ami Serge Hamelin pour ces bons conseils, ces bons papiers ma foi qui nous ont informés, éduqués. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
Je compte sur vous.
Au revoir.
Alors à lundi prochain.
Bonne semaine.
Ne manquez pas Gisèle Lalande dans la prochaine.